restons profondément engagés par rapport à la Charte des Nations Unies, à ses principes fondateurs. Et contrairement aux allégations qui ont été faites concernant la coopération, nous restons engagés à participer de façon digne et à coopérer en nous basant sur des partenariats. Notre engagement par rapport au EPU est conforme à notre engagement à garder un dialogue ouvert avec la communauté internationale et les mécanismes pertinents relatifs aux droits de l'homme. Concernant les questions socio-économiques, il y a eu des observations et des commentaires et des recommandations concernant des droits essentiels sur le plan socio-économique et culturel. Nous attachons beaucoup d'importance à la mise en œuvre de ces droits. Outre mes remarques liminaires, d'autres interventions ont été faites par mes collègues qui ont esquissé les différentes initiatives que nous avons prises pour honorer nos obligations concernant ces droits. Et je pense notamment à l'accès pour pouvoir atteindre les ODD, créer une société inclusive. Concernant les mandats spécifiques à des pays, nous pensons que la promotion et la défense des droits de l'homme doivent se baser sur le réel dialogue, l'impartialité, la participation, afin de renforcer la capacité des États à honorer leurs obligations relatives aux droits de l'homme. Pour de nombreux pays, dont l'Érythrée, l'EPU est un mécanisme des pairs universel et global, comme pratiquement tous les États des Nations Unies et la majorité des États en développement. Nous sommes opposés aux deux poids, deux mesures et à des approches peu objective et centrée sur des pays. Il n'y a jamais eu une crise des droits de l'homme en Érythrée qui expliquerait que cela soit à l'ordre du jour de cette façon du Conseil des droits de l'homme. Nous avons été ciblés par des résolutions spécifiques des pays ou mécanismes spécifiques du Conseil des droits de l'homme depuis au moins 13 ans. L'Érythrée ne peut pas accepter ces injustices, ce harcèlement. Nous demandons à la fin de ces mandats. Nous pensons que c'est injuste, que ce n'est pas équitable, que ça n'a apporté aucun dividende dans la promotion des droits de l'homme. Pour conclure, premièrement, d'emblée, j'aimerais bien tout d'abord vous remercier, vous, monsieur le vice-président. Merci pour votre direction et votre compétence pour diriger nos travaux. Dans nos interventions aujourd'hui, nous avons tenté d'attirer votre attention sur plusieurs initiatives essentielles prises par le gouvernement de l'Érythrée depuis le dernier EPU. Nous avons souligné ce que nous avons fait, mais nous avons également noté les difficultés rencontrées, les défis persistants. Nous travaillons avec acharnement pour améliorer cela dans tous les domaines. Nous espérons que ce groupe de travail va prendre note du contexte socio-économique de l'Érythrée, de la façon dont elle honore ses obligations en matière de droits de l'homme. Nous espérons que cela sera remis dans un contexte, notamment compte tenu des conséquences de la pandémie de la COVID-19. Pour conclure, monsieur le vice-président, je souhaiterais profiter de l'occasion pour une fois de plus souligner à quel point nous sommes heureux du nombre d'États qui ont pris la parole aujourd'hui. C'est très encourageant de voir que cela a été fait d'une façon tout à fait fructueuse, orientée vers l'avenir. Nous sommes tout à fait satisfaits du résultat. Nous attendons avec intérêt de pouvoir continuer de coopérer avec les partenaires qui sont vraiment intéressés et qui ont de bonnes intentions. Nous sommes heureux d'avoir pu parler de notre engagement par rapport au mécanisme de l'EPU et d'avoir esquissé nos plans pour l'avenir en la matière. Merci beaucoup à la délégation de l'Érythrée. Merci de la présentation et de la participation à cet examen. Le rapport de l'examen sera préparé par les membres de la Troïka, les représentants du Koweït, du Malawi et de la Roumanie. Conformément à la procédure mise en œuvre en 2015, la section des recommandations du rapport devrait être distribuée mercredi 8 mai.